Vous écoutez
RMC. Face à face.
Apolline de Malherbe.
Il est 8h32 et vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour David Calfin.
Bonjour.
Merci d'être dans ce studio pour répondre à mes questions et tenter de nous éclairer ce matin. Vous êtes co-directeur de l'Observatoire de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient de la Fondation Jean Jaurès. Et on l'a appris donc ce matin, quelques secondes avant 6h. La trêve a volé en éclats. Quelle stratégie pour le Hamas? Quelle stratégie pour Israël? Quel scénario pour les otages qui restent encore dans la bande de Gaza? Tentez de comprendre, d'abord, qui a brisé la trêve?
C'est difficile de le dire, a priori le Hamas, parce que les premiers tirs de roquettes ont été tirés juste avant l'expiration de la trêve. Ce qu'il faut arriver à comprendre, c'est que la trêve, par définition, c'est très très fragile. Parce que vous avez un État démocratique qui négocie avec un groupe militaro-terroriste, et donc il y a une espèce d'asymétrie à la fois morale, et puis en même temps les objectifs stratégiques qui sont évidemment antithétiques. C'est-à-dire que pour le Hamas, l'objectif de la trêve, c'était avant tout de se rassénérer, de régénérer ses troupes, de remettre la main sur son système de communication qui a été en grande partie détruit par l'armée israélienne, notamment dans le nord de la bande de Gaza, soufflé parce que les troupes du Hamas dans le nord de la bande de Gaza ont subi le rouleau compresseur israélien. Donc il y avait du côté du Hamas un intérêt à gagner du temps. Donc en effet, le fait de briser cette trêve de façon aussi spectaculaire me paraît assez surprenant. Mais encore une fois, je pense qu'il faut par ailleurs quand même en revenir à ce qu'est le Hamas fondamentalement. C'est-à-dire que c'est un mouvement dont l'idéologie islamiste nationaliste irrigue la pensée de ses dirigeants et de ses miliciens. Donc il y a une volonté aussi du Hamas. La guerre, si vous voulez, pour le Hamas, c'est sa raison d'être. Donc revenir au combat, c'est pas complètement absurde quand vous avez le sentiment que la marge de négociation avec les Israéliens est de plus en plus limitée.
Et ça nous éclaire sur un point. Je suis peut-être extrêmement naïve, mais le sentiment que donnaient ces derniers jours, c'est que la plus grande difficulté, c'était surtout de contenir Israël, quand on voyait le mal que se donnaient les États-Unis, par exemple, qui ont envoyé Anthony Blinken en Israël pour justement tenter d'appeler à la raison les dirigeants israéliens pour ne pas qu'ils reprennent justement les hostilités ou les bombardements. Et finalement, il y a cet attentat d'abord hier à Jérusalem, revendiqué par le Hamas, puis ces tirs de roquettes juste avant 6 heures ce matin. C'est donc le Hamas, finalement, qui donne l'impression d'avoir effectivement besoin de reprendre ses hostilités et non pas Israël.
Oui, et ce qu'il faut comprendre, c'est que le Hamas n'est pas un mouvement monolithe, c'est que vous avez une branche extérieure et on sait que les messages passés notamment par Haniyeh, donc qui est le chef du Hamas, si vous voulez, la branche extérieure et politique du Hamas, donc basée à Doha. Donc il faudrait peut-être s'interroger sur une éventuelle dissension au sein du mouvement islamiste entre, encore une fois, la branche extérieure et Yahya Sinwar, qui est le chef du Hamas dans la bande de Gaza. Il est tout à fait possible d'imaginer que les messages ou que la communication n'étaient pas forcément optimales au sein même du mouvement et qu'il y avait une dissension sur la stratégie à adopter vis-à-vis d'Israël.
Est-ce que ça veut dire dans ces cas-là qu'il y a ceux avec lesquels il y a la communication et la négociation, notamment via le Qatar, et puis il y a ceux sur le terrain qui ne suivent pas forcément ces ordres-là, qui ne sont pas forcément dans le même dialogue?
Bah, écoutez, jusqu'à présent, Sinwar, donc le chef du Hamas dans la bande de Gaza, donnait le sentiment au contraire que il souhaitait négocier. Il a imposé à ses troupes, y compris dans le nord de la bande de Gaza, le cessez-le-feu qui a été globalement respecté. Donc c'est pour ça que je m'interroge malgré tout sur quelle est la stratégie aujourd'hui du mouvement. Si vous voulez, on a le sentiment que le Hamas a été acculé militairement dans le nord de la bande de Gaza et au fond, désormais, je veux dire, les Israéliens ne s'en cachent pas. Ce qu'ils veulent, c'est détruire le Hamas d'un point de vue politico-militaire, c'est-à-dire pas éradiquer jusqu'au dernier de ses combattants, mais provoquer un effondrement, si vous voulez, de la chaîne de commandement et de son enracinement politique dans la bande de Gaza pour lui substituer un mécanisme, on verra, international. Pour l'instant, c'est très flou du côté israélien. Mais là, si vous voulez, moi, ce qui m'interpelle, c'est que quand on regarde les chiffres, notamment le tir de roquettes depuis la première semaine à la dernière semaine juste avant la trêve, il y a eu un effondrement. Et ce qui montre bien les difficultés opérationnelles du Hamas face
C'est-à-dire que le Hamas avait moins de munitions, moins de capacité à envoyer
moins de munitions, non, mais moins de capacité clairement à envoyer des roquettes, tout simplement parce que l'armée israélienne était physiquement présente dans le nord de la bande de Gaza, et plus l'armée israélienne avançait, et plus ça devenait difficile pour les miliciens du Hamas de tirer sur l'arrière israélien, c'est-à-dire sur le sud d'Israël principalement, mais aussi sur le centre du pays.
La trêve, elle était militaire, elle était aussi humanitaire, avec la volonté de pouvoir faire rentrer dans la bande de Gaza davantage d'aide humanitaire, la volonté aussi de pouvoir permettre à une partie de la population de se mettre un peu plus à l'abri, si tant est que ça soit possible. Mais elle avait aussi vocation à permettre de libérer des prisonniers palestiniens, des otages israéliens. Les négociations semblent malgré tout se poursuivre. Est-ce que ce n'est pas totalement contradictoire ?
Non, parce qu'en réalité, d'ailleurs, ce qui admet le Hamas à cette trêve, vous savez, c'est aussi d'une certaine manière la pression militaire israélienne. C'est-à-dire que traditionnellement, les armées conventionnelles d'État démocratique dans ce type de conflit, ce qu'elles font, c'est qu'elles tapent d'un côté, elles négocient de l'autre. Même si, évidemment, officiellement, elles ne négocient pas avec des groupes terroristes, en réalité, elles le font de façon indirecte. Et il est bien
mais là, pour la première fois, tout cela a été très officiel. C'est-à-dire que pour la première fois, il a été tout à fait assumé que l'on négociait via le Qatar avec le Hamas. Et que donc Israël et le Hamas se mettaient d'accord sur des points.
Oui, parce que c'est le reflet un peu de ce qui s'est passé le 7 octobre. C'est qu'on n'est pas dans une configuration habituelle d'attaque de représailles. Le 7 octobre, c'est un massacre de très très grande ampleur à caractère génocidaire dont on continue encore à en découvrir les horreurs. Et donc, ça explique aussi la nécessité pour les belligérants de se retrouver sur un minimum commun pour essayer de libérer le plus possible d'otages. Parce que je rappelle quand même que après les massacres, ce qui a fait suite au massacre, c'est une prise d'otages massive, totalement inédite dans l'histoire de ce conflit, qui est vieux d'un siècle. Et donc, d'où la nécessité de trouver un accord sur libération des otages pour Israël, évidemment. Pour le Hamas, l'objectif, c'était aussi de marquer des points face au Fatah de Mahmoud Abbas. C'est-à-dire qu'on voit bien que le Hamas se contrefiche des prisonniers palestiniens, mais les utilise aussi quelque part comme des butins de guerre. En libérant des prisonniers palestiniens, ça lui permet de communiquer. On voit bien la mise en scène parfois grotesque.
Comme des héros,
exactement, et avec une popularité grandissante en Cisjordanie, parce que le Hamas, il faut le rappeler, c'est le mouvement de la résistance islamique, Mukawama, c'est résistance, et il y a, donc je mets bien sur des guillemets, cette volonté en fait de prétendre incarner la résistance armée face à Israël, reprendre le drapeau de la lutte armée à tout craint contre l'État d'Israël, et ça séduit un certain nombre de Palestiniens, notamment la jeunesse.
Et quand vous dites cela, ça veut dire que dans le rapport de force politique entre Mahmoud Abbas, l'autorité palestinienne, et le Hamas de l'autre côté, ça veut dire que avec ces libérations de prisonniers, la population, la jeunesse notamment, serait de plus en plus acquise à la cause du Hamas.
Là, il faut être extrêmement prudent parce que évidemment, la bande de Gaza, sur laquelle le Hamas a exercé sa férule pendant plus de 10 ans, c'est pas du tout. Il y a une gouvernance très très autoritaire avec vraiment un contrôle social très étroit du Hamas sur la société palestinienne. On sait qu'en août dernier, donc août 2023, il y a eu des manifestations contre l'augmentation du prix de la vie, du coût de la vie, qui ont été réprimées dans le sang, de manière extrêmement brutale par le Hamas. Et il y a eu des critiques sur la gouvernance autoritaire du Hamas. Donc la popularité du Hamas dans la bande de Gaza, je pense qu'elle n'est pas si grande que ça. Il y a une partie de la population qui suit. Parce qu'il faut comprendre que c'est une société qui est massifiée, comme tout régime autoritaire ou totalitaire.
Massifiée, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas d'individu?
Vous avez une destruction de l'individualité, c'est-à-dire de ses capacités à prendre un recul critique par rapport au narratif, à la propagande, ce qui est un lavage de cerveau, une éducation à la haine qui est omniprésente. C'est vraiment une idéologie mortifère. Donc, pas tous les Palestiniens de la bande de Gaza. On voit bien que de plus en plus de Palestiniens, plus l'armée israélienne avançait dans le nord de la bande de Gaza, plus on les entendait au vu des destructions massives auxquelles ils étaient confrontés, plus ils exprimaient publiquement, même parfois en direct sur la chaîne de propagande du Hamas à l'Aqsa TV, leur mécontentement vis-à-vis du Hamas, accuser les dirigeants du Hamas d'être responsables de ce désastre et notamment du désastre humanitaire. Et vous avez du côté de la Cisjordanie, en miroir inversé, une popularité grandissante et qui est liée assez largement et en creux à la corruption endémique dont tout le monde, accuse l'autorité palestinienne, à son impéritie, à sa perte de vitesse. Elle est complètement décrédibilisée. Vous avez un Mahmoud Abbas qui a 88 ans aujourd'hui. Il n'y a plus d'élection depuis 2005. Donc il n'y a pas du tout de légitimité du président de l'autorité palestinienne. qui règne sur Ramallah et encore. Et donc, face à lui, vous avez un mouvement qui prétend justement relégitimer la cause palestinienne, remettre la question palestinienne au centre de l'agenda international de manière extrêmement atroce, hein, par des violences terroristes de masse, mais qui séduit une partie de la jeunesse radicalisée.
Voilà peut-être la stratégie opinion publique du Hamas du côté d'Israël. Vis-à-vis de l'opinion publique, ça sera très compliqué. Est-ce que on peut imaginer que la trêve... Est-ce que la trêve d'abord c'est fichu? Est-ce qu'elle ne reprendra pas? Est-ce qu'elle peut malgré tout reprendre, sachant que l'opinion publique israélienne a attendu le retour des otages et qu'il en reste encore beaucoup?
Il n'est pas impossible qu'elle reprenne. Ça sera plus difficile. C'est-à-dire que plus les hostilités s'intensifient, plus ça rendra compliqué un retour à des négociations entre le Hamas et Israël. Mais c'est absolument pas impossible, puisque la preuve, avant l'émergence de cette éruption de cette trêve, les combats étaient extrêmement intenses entre Israël et le Hamas. Donc c'est absolument pas impossible. Mais là, manifestement, il y a eu des couacs, il y a eu un problème de communication probablement. Le délai qui avait été fixé était peut-être aussi trop court. On a vu aussi que le Hamas, ces dernières 48 heures, rechignait, prétextait une difficulté à mettre la main sur le nombre d'otages qui étaient disséminés dans la bande de Gaza. Donc il y a eu aussi une stratégie un peu de guerre psychologique menée par le Hamas, avec une volonté vraiment de torturer psychologiquement les familles des otages, en séparant notamment les mères de leurs enfants dans un premier temps. Ensuite, finalement, en respectant l'accord qui avait été agréé avec Israël via le Qatar. Et là, on voit bien que, encore une fois, les paramètres de cette trêve étaient quand même pas très solides, même si ça a tenu, le dispositif globalement a tenu. Mais là, on voit qu'il y a un retour à la confrontation armée, parce qu'encore une fois, on est dans un conflit, une guerre totale, où les belligérants ont un objectif qui consiste à défaire militairement l'adversaire sur le champ de bataille.
Confrontation armée. David Kalfa, je rappelle pour ceux qui nous rejoignent que vous êtes le co-directeur de l'Observatoire de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient à la Fondation Jean Jaurès. Lorsque vous parlez à l'instant du traitement des otages, on va y revenir, mais aussi de cette confrontation armée de deux protagonistes qui veulent chacun la destruction de l'autre. On a Benjamin Netanyahou qui a rappelé hier que les combats reprendraient jusqu'au bout. Ça veut dire quoi, jusqu'au bout?
Jusqu'à la destruction de l'infrastructure politico-militaire du Hamas. Alors vous avez plusieurs manières d'y parvenir. Vous pouvez pas tuer jusqu'au dernier des combattants du Hamas, ça n'a absolument aucun sens. Mais vous pouvez décapiter en fait sa chaîne de commandement. D'abord les commanditaires du massacre du 7 octobre, Yahya Sinwar, le chef de la branche politique dans la bande de Gaza, Mohamed Deif, qui est à la fois le chef d'état-major et le ministre de la Défense du Hamas, qui est aussi l'orchestre des massacres du 7 octobre. Donc vous pouvez casser, disloquer la chaîne de commandement. Vous pouvez aussi éradiquer aussi son assise politique en prenant possession des institutions politiques qui étaient censées être l'incarnation du proto-État théocratique du Hamas dans la bande de Gaza. Ça, c'est possible. Vous avez aussi la possibilité, comme ça avait été le cas en 82, ça commence à être discuté en haut lieu, d'un deal qui consisterait à offrir la possibilité au Hamas, non pas à Sinwar et à Deif, hein, qui sont clairement qui sont les ennemis publics numéro un pour Israël, mais un grand nombre de miliciens du Hamas de quitter la bande de Gaza et peut-être pour aller, pourquoi pas, au Qatar en échange d'un cessez-le-feu en bonne et due forme, une fois que le Hamas sera vraiment très affaibli sur le plan militaire. Moi, je rappelle qu'en 82, lors de la première guerre du Liban, Israël avait accepté le départ de Yasser Arafat et de 11 000 miliciens de l'OLP du Liban vers la Tunisie. Donc ce serait, c'est une hypothèse qui a été soulevée par les Israéliens récemment. J'ai des doutes sur sa faisabilité parce que je pense qu'à la différence de l'OLP dans le logiciel quand même idéologique intellectuel était, disons, séculier pour pas dire laïque, fondamentalement nationaliste. Du côté du Hamas, sa dimension religieuse, je rappelle quand même que le Hamas c'est Harakat al-Mukawama al-Islamiyya, ce qui veut dire le mouvement de la résistance islamique. Vous n'avez pas de Palestine dedans. Lors des tueries, d'ailleurs, il ne parle pas de la Palestine, il parle de l'écrit face aux suppliciés, son religieux, à la Wakbar. On le voit sur les images qui sont absolument insupportables des atrocités commises par les miliciens du Hamas, par les escadrons de la mort du Hamas. Et donc, cette dimension idéologique, il ne faut absolument pas la sous-estimer. Elle est centrale dans la naissance du mouvement, dont les racines en plus plongent au début des années 40, et même on pourrait revenir au début de la création de la confrérie des frères musulmans à la fin des années 20. Et par ailleurs, en plus, le Hamas, si on regarde, parce que les frères musulmans, c'est tentaculaire, mais d'un point de vue idéologique, c'est la branche la plus dure, c'est la vision koutoubiste des frères musulmans, qui est la vision la plus activiste, qui met vraiment le djihad armé au centre de ses préoccupations politiques idéologiques. Donc là, on est dans une configuration tout autre.
Et dans ce contexte, David Kalfa, peut-on espérer pour les otages qu'il reste ? Il en reste une centaine, dont 4 Français, je le rappelle.
Alors, il est possible qu'on revienne à ce qui s'est passé avant la trêve, c'est-à-dire à nouveau face au rouleau compresseur israélien. Je pense que assez rapidement, le Qatar, qui a un intérêt, si vous voulez, ne serait-ce que parce que son image a été dégradée suite au massacre du 7 octobre. On se rappelle d'Annier en prière avec des images de massacres, se félicitant du massacre depuis Doha, depuis un palace à Doha. Et donc ce côté Janus à deux têtes du Qatar, cette hypocrisie, au fond, elle a un impact sur les relations entre le Qatar notamment et les États-Unis. On sait que les pressions américaines sur le Qatar sont extrêmement fortes. Et donc on peut imaginer que le Qatar fera tout son possible pour essayer
de poursuivre la libération d'un certain nombre d'otages.
Oui, d'inciter les belligérants à revenir à la table des négociations, notamment le Hamas, parce que c'est vraiment le go-between entre Israël et le Hamas. C'est le Qatar qui joue ce rôle, parce que c'est le grand argentier du Hamas, c'est celui qui le soutient politiquement, idéologiquement, via sa chaîne de télévision Al Jazeera, notamment en arabe. Donc ça, c'est envisageable que sous la pression militaire, on revienne à des négociations, ne serait-ce que parce qu'il y reste encore des femmes et des enfants entre les mains du Hamas, que c'est pas bon pour son image et notamment vis-à-vis du Qatar encore une fois et de son soutien russe. Donc ça c'est envisageable. En revanche, lorsque cette phase de négociation sera terminée et qu'il s'agira de libérer les hommes cette fois-ci et notamment les soldats, là je pense qu'on entrera dans le dur de la négociation parce que rappelez-vous en 2011 le Hamas accepte de négocier avec Israël la libération du soldat franco-israélien Gilad Shalit en échange de plus de 1000 prisonniers palestiniens. Jusqu'à présent, on a été sur un ratio de 1 à 3, c'est-à-dire 1 prisonnier palestinien pour un otage israélien pour 3 prisonniers palestiniens. Et là, lorsqu'il s'agira de faire libérer, si vous voulez, les otages, les hommes, les plus de 30 ans, 40 ans, etc.
On peut imaginer que
le ratio va changer probablement, ce sera beaucoup plus compliqué. Et je pense que de ce point de vue, il faudra s'attendre au contraire à un durcissement du conflit. Parce que les Israéliens, ils le disent, urbi et orbi, qu'ils veulent aller jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à la destruction du Hamas.
À l'instant, le président israélien Isaac Herzog a été vu serrant la main de l'émir du Qatar. Ça se passe à la COP28. Est-ce qu'on peut se dire que c'est de bon augure ?
C'est difficile à dire. Vous savez, le Qatar, au moins depuis 1995, a des relations officielles avec Israël, avec un bureau économique à Tel Aviv, dans le sillage des accords d'Oslo. On sait que les relations entre les services de renseignement du Qatar et les services israéliens, le Mossad, sont plutôt bonnes. On sait qu'Israël apprécie le rôle joué par le Qatar, même si évidemment les Israéliens considèrent que il faudra quand même régler un certain nombre de comptes avec eux après la guerre, face à une stratégie dont on a bien vu les limites, qui consistait, si vous voulez, l'équation c'était de le calme contre le cash. On voit bien que ça n'a pas tenu du tout, et que le Hamas a trompé tout son monde, y compris d'ailleurs le Qatar. Donc pas forcément. Le dialogue, il a jamais été rompu avec le Qatar. Les relations entre le président de l'État d'Israël et le Qatar sont plutôt bonnes, et je me doute évidemment que à Dubaï, ils vont discuter d'une éventuelle reprise de cette trêve, ne serait-ce que encore une fois pour faire libérer les derniers otages, les femmes et les enfants les plus fragilisés.
Une question, David Kalfa, sur Benjamin Netanyahou. On a du mal à comprendre qu'il puisse encore tenir debout, au sens où non seulement, évidemment, ça faisait des mois qu'il y avait une opinion publique extrêmement partagée déjà au sein de la démocratie israélienne, mais on apprend, et c'est le New York Times qui le révèle ce matin, que depuis un an déjà, Israël savait, ou en tout cas pouvait savoir, que le scénario de l'attaque du 7 octobre, quasiment un scénario d'une précision inouïe, avait été trouvé par les services de renseignement américains et israéliens, mais que ça a été balayé d'un revers de main par des responsables de l'armée israélienne qui n'ont pas pris cette menace au sérieux.
Oui. Vous savez, c'est, enfin, moi, ça me fait penser à un certain nombre d'échecs historiques des services de renseignement, Bataclan en France, 11 septembre aux États-Unis. On pourrait multiplier les exemples. En fait, le problème du renseignement, il est très simple, c'est que c'est un puzzle. Il faut, voilà, il y a une multiplicité de pièces qu'il faut arriver à assembler pour avoir une vision un peu en 360 de ce à quoi on est confronté. Donc là, le renseignement, il l'avait. Il suffit pas de l'avoir. Après, il y a une dimension cognitive. Et je pense qu'il y a une forme d'hubris du côté d'un certain nombre de militaires israéliens, notamment du renseignement militaire,
qui par orgueil.
Oui, qui n'ont pas cru que le Hamas, non pas que le Hamas n'était pas capable, mais que le Hamas n'était pas, ne voulait pas, n'aurait pas pris le risque de lancer un tel assaut contre Israël, sachant ce qu'il obtiendrait en retour, c'est-à-dire une guerre totale d'éradication du mouvement islamiste palestinien. Et c'est une erreur, évidemment, c'est une erreur. Et je pense que ce biais cognitif, il est collectif, parce qu'on voit bien que ça ne concerne pas que l'armée israélienne, l'échelon politique aussi. Netanyahou n'a peut-être pas eu les détails de cette attaque, mais il a eu des éléments, on le sait désormais, ça a fuité dans la presse israélienne, notamment l'unité 1200, qui fait du renseignement électromagnétique, une soldate.
Il n'a pas voulu croire, comme vous le dites aujourd'hui. David Kalfa, merci d'être venu nous éclairer ce matin. Je rappelle que vous êtes co-directeur de l'Observatoire de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient à la Fondation Jean Jaurès.